Vous écoutez RFI, il est 21h ici à Paris, 19h en temps universel. Et Sébastien Farcy à mes côtés, dans 10 minutes le décryptage, comment la France répond à la hausse du trafic de drogue. Mais d'abord le journal, bonsoir Sébastien.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous. À la une, Donald Trump et Vladimir Poutine viennent de finir leur entretien téléphonique. Vladimir Poutine affirme qu'il va commencer immédiatement des négociations avec l'Ukraine pour un cessez-le-feu. Nous serons en direct de Moscou dans le journal. La guerre, elle, n'en finit pas de tuer à Gaza. L'armée israélienne a fait passer quelques camions humanitaires, mais continue de pilonner le territoire. La population civile n'a plus d'endroit où se cacher, nous confiera un journaliste palestinien. Enfin, l'écologie a beau être à la mode, le recyclage peine à s'installer dans nos modes de vie. C'est le pénible constat d'une nouvelle étude sur le sujet. Vladimir Poutine et Donald Trump viennent donc à peine de raccrocher le téléphone. C'est leur deuxième entretien depuis le retour du président américain à la Maison-Blanche en janvier dernier. Il portait principalement sur le conflit en Ukraine. Donald Trump avait promis de mettre fin à cette guerre en 24 heures. Nous en sommes loin. Le dirigeant américain était même jusqu'à présent assez clément avec son homologue russe. Alors nous sommes en direct de Moscou avec notre correspondante Anissa El-Jabri. Anissa, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. Donc les dirigeants ont mentionné le mot cessez-le-feu dans leur discussion, mais toujours sans préciser de date, Anissa.
On a en tout cas pas ici, en tout cas au compte-rendu auquel on peut accéder, on n'a pas le sentiment d'être sur une accélération du tempo diplomatique. Il n'y a pas de changement dans la position de fond du Kremlin. La pression ici est toujours mise sur l'Ukraine. Travailler sur un cessez-le-feu et des négociations de paix, oui, dit la Russie, mais cela dans le cadre qu'elle souhaite, celui d'Istanbul, celui des pourparlers de 2022 qui avait échoué. Vladimir Poutine a encore redit ce lundi ce qu'il avait déjà dit dimanche et ce qu'il dit depuis plus de 3 ans maintenant. L'essentiel pour lui, c'est d'éliminer ce qu'il appelle les causes profondes de la crise. Autrement dit, il ne renonce à aucun de ses objectifs. De plus, vous le disiez, en tout cas c'est selon le compte-rendu fait il y a une demi-heure par le Sherpa diplomatique du Kremlin, aucun calendrier n'a été convenu entre les deux chefs d'État pour l'obtention d'un cessez-le-feu. D'une manière générale, quand même, selon le conseiller diplomatique du Kremlin, il y a encore, je cite, beaucoup de nuances, comprendre détails, et souvent des détails d'importance, entre Donald Trump et Vladimir Poutine sur le conflit. Il y a, Sébastien, un autre volet à cette conversation. Il est très important aux yeux du Kremlin, c'est la relation avec Washington. Et là-dessus, le conseiller diplomatique a beaucoup insisté sur la qualité qui est en train de s'installer. Il est allé jusqu'à prononcer le mot de normalisation en vue entre la Russie et les États-Unis pour bien appuyer ce qui est un objectif majeur pour Moscou. Il est allé jusqu'à fournir ces deux détails. Les deux chefs d'État s'appellent désormais par leur prénom et vous écoutez bien, aucun des deux ne voulait raccrocher en premier.
Anissa El-Jabri en direct de Moscou, merci. Les Européens, eux, ont déjà réagi. L'Union Européenne va renforcer ses sanctions contre la Russie, annonce Berlin ce soir, après l'entretien suite au refus de Vladimir Poutine d'accepter un cessez-le-feu immédiat. 5 camions humanitaires sont entrés à Gaza aujourd'hui dans l'enclave de Gaza chargée de nourriture pour bébés. Première vivre autorisée à entrer depuis 2 mois. Cela représente une goutte d'eau dans l'océan, a rétorqué l'Organisation des Nations Unies qui dénonce fermement le blocus humanitaire imposé par le gouvernement de Netanyahou, un blocus qui affame la population. Pendant ce temps, Israël continue en effet de pilonner Gaza. 52 personnes sont mortes ce lundi. Son armée prévoit de prendre le contrôle de tout le territoire bientôt. La population est donc acculée, dénonce le journaliste palestinien Rami Abu Jamous. Il est fondateur de Gaza Press et lauréat du prix Bayeux des correspondants de guerre. Écoutez-le.
Toutes les zones plus ou moins considérées sûres ont été bombardées. Les hôpitaux, au début, les gens ils allaient dans les hôpitaux en croyant que les hôpitaux c'est un endroit sûr et que ils avaient la protection de droit international humanitaire, qu'ils vont pas viser les hôpitaux. Ça a été bombardé, ça a été attaqué. Les écoles de l'Europe, en considérant que les Nations Unies c'est intouchable, donc on peut pas y aller ou bien viser les établissements de l'Europe, l'agence onusienne, et malheureusement ça a été bombardé, ça a été attaqué. La zone humanitaire que les Israéliens prétendent qu'une zone où on peut s'installer, en sécurité, mais malheureusement c'est pas le cas. Et ça, c'est bombardé 24/7. Donc les gens, ils sont dans la rue. Et quand je dis dans la rue, c'est vraiment dans la rue. Il y a eux, ceux qui ont de la chance, ils ont une tente qu'ils ont amenée avec eux parce qu'ils se sont déplacés plusieurs fois. Il y en a d'autres qui mettent des bâches. Il y en a d'autres qui mettent quelques draps. Il y en a d'autres qui passent la nuit dans les voitures. Donc c'est des conditions de vie catastrophiques. C'est une catastrophe de jamais vue que à Gaza.
Les dirigeants français, britanniques et canadiens, eux, affirment dans une déclaration commune ce soir qu'ils ne resteront pas les bras croisés face, je cite, aux actions scandaleuses du gouvernement israélien de Benjamin Netanyahou. Les trois présidents et premiers ministres menacent même de mesures concrètes si Israël ne cesse pas son offensive militaire et ne débloque pas l'aide humanitaire. En Roumanie, nous sommes au lendemain d'un scrutin plein de surprises. Contre toute attente, c'est le candidat pro-européen, le maire de Bucarest, Nicușor Dan, qui l'a remporté. Il a obtenu près de 54% des voix devant son adversaire de l'extrême droite, George Simion. Ce dernier conclut la course avec 46% des voix, score inédit en Roumanie pour une formation populiste, mais pas assez pour ses partisans qui rêvaient de voir leurs idées gouverner. Ils sont donc fortement déçus. Reportage à Bucarest de Muriel Paradon.
Place de l'Union en plein centre de Bucarest, c'est la désillusion pour certains Roumains qui avaient voté pour le candidat d'extrême droite, George Simion. Cristina, 33 ans, travaille dans le commerce.
C'est désolant. Les gens auraient pu voter pour Simion. Il aurait pu amener le pays vers de meilleures choses, de meilleures conditions de vie, des aides pour les handicapés, par exemple.
Marius, 40 ans, n'a pas voté, mais il fustige violemment Nicușor Dan. Selon lui, le nouveau président n'arrivera pas à défendre les intérêts des Roumains.
Ça se voit à sa tête qu'il est incapable de faire face aux dirigeants du monde. Il sera soumis, la tête baissée. Et dans sa campagne, il ne s'est intéressé qu'à l'Ukraine et à la Moldavie, pas à la Roumanie.
Alecu, un étudiant de 19 ans, a voté George Simion parce qu'il partage, dit-il, ses valeurs morales. Ce qui l'inquiète aujourd'hui, c'est que les élections ont divisé la société.
La société s'est pas mal divisée. Il y aura peut-être une période de tension sociale. Et ensuite, ensemble, la politique reviendra comme avant, avec les mêmes déceptions. Je ne pense pas qu'il y aura un changement radical, peut-être un changement infime.
Dans son discours hier, le nouveau président Nicușor Dan a promis de reconstruire une Roumanie unie. Il aura fort à faire. Muriel Paradon, Bucarest, RFI.
C'est une nouvelle entente cordiale qui vient d'être scellée. 5 ans après le Brexit, le Royaume-Uni et l'Union européenne ont signé ce lundi un nouveau partenariat stratégique. Un accord qui porte sur les questions de défense, de sécurité, mais assouplit également de nombreuses barrières commerciales. Enfin, l'économie circulaire a beau être un terme à la mode, la pratique du recyclage est encore très très minoritaire. C'est un rapport du cercle de réflexion Circle Economy qui le révèle. Sur les plus de 100 milliards de tonnes de matières utilisées chaque année sur la planète, moins de 7% proviennent de produits réutilisés. Un chiffre non seulement bas, mais qui est en baisse régulière. Explication de Simon Rosé.
L'humanité est un ventre qui ne cesse d'engloutir toujours plus de matières premières. 106 milliards de tonnes l'an dernier, parmi lesquelles 7 seulement proviennent de matériaux recyclés. Certes, ces derniers sont en progression constante, mais comme dans le même temps la voracité de nos sociétés augmente encore plus fortement, la proportion des matériaux recyclés dans le total de ceux utilisés diminue. 2024 a illustré cette tendance pour la 8e année consécutive, et ce phénomène est appelé à s'amplifier. Selon les projections des auteurs, dans 30 ans, ce ne seront pas 100 milliards de tonnes de matériaux, mais 160 milliards qui seront consommés chaque année, avec de graves disparités sur la planète. États-Unis et Union européenne captent aujourd'hui à eux seuls plus de la moitié des matières premières mondiales, alors que les deux blocs ne représentent que 10% de la population. Le problème est donc systémique, concluent les auteurs, qui déplorent un manque de cadre mondial contre ce gaspillage généralisé. Pour y remédier, ils appellent ainsi à la création d'une agence internationale des matériaux, sur le modèle de l'Agence internationale de l'énergie, afin de guider les gouvernements dans la mise en place d'une économie réellement circulaire.
Enfin, surprise ce lundi sur la croisette. L'acteur américain Denzel Washington a reçu une Palme d'Or à Cannes, un titre qui vient récompenser l'ensemble de sa carrière. La star de 70 ans a été rendue célèbre par son incarnation de Malcolm X. Il se trouve au Festival de Cannes avec l'équipe du nouveau film de Spike Lee, Highest to Lowest. Le palmarès du festival, lui, sera annoncé samedi prochain. Il est 21h10, tout de suite, le décryptage.